Joachim Dupont, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur de Naxado Capital. On va parler avec vous de lancement notamment d'un premier fonds dans l'immobilier. On va parler également de votre activité puisque vous êtes déjà une plateforme de crowdfunding,
Oui, d'equity crowdfunding.
d'equity crowdfunding. On va s'y arrêter un instant pour commencer. Qu'est-ce qu'il y a sur ce type de plateforme-là?
Alors, Naxago, c'est une plateforme créée en 2012, à l'origine pour permettre à des investisseurs privés de prendre des participations dans le monde du private equity. Des participations qui étaient auparavant réservées à des investisseurs soit professionnels ou qui avaient accès à ces opportunités. Donc l'idée de la plateforme, c'était de proposer des entreprises innovantes dans un premier temps pour permettre aux souscripteurs de devenir directement actionnaires de ces entreprises. Et depuis 2014, on a ouvert une activité autour du private equity immobilier. Toujours le même principe, mais pour permettre là d'investir dans des projets à plutôt court terme, 12, 18, 24 mois, et avec des objectifs de rendement plutôt élevés, entre 8 et 12% par an.
Sur la plateforme de l'origine, en quelque sorte, quel bilan vous en tirez? Parce que on a différents sons de cloche aujourd'hui, hein. Il y en a qui, on n'en entend plus parler, il y en a qui sont encore là. Ça a été un peu une épreuve aussi de réussir à rester autant d'années.
Alors pour nous, le bilan il est plutôt très positif. Un, parce qu'on est encore là. Et deux, parce qu'on a plutôt une très bonne preuve de concept. Il y a plus de 120 millions qui ont été investis. C'est 6 000 investisseurs privés. Donc aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup. Enfin, c'est créer cette base d'investisseurs assez important. Ça a été un challenge. Mais en tout cas, les gens nous ont fait confiance. C'est plus de 30% maintenant de la collecte qui est assurée par des investisseurs professionnels également. Et c'est également plus de 10% de TRI servis depuis 4 ans sur la logique private equity immobilier. Et rien qu'en capital risque, on a à peu près 80% des exits positifs qui sont chez Anaxago. Donc le bilan est plutôt très positif d'un côté investissement et aussi côté performance.
Donc là, c'est une société de gestion hein, que vous créez. Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que vous allez faire?
L'objectif pour nous, c'est de passer un petit peu la deuxième et accélérer. Accélérer côté participation, donc pouvoir investir dans des entreprises un peu plus mature ou ayant des besoins plus importants, quand on pouvait investir 1, 2 millions d'euros avec la plateforme, l'objectif maintenant, c'est avec le fonds de pouvoir investir entre 2 et 10 millions d'euros. Donc continuer notamment dans le private equity immobilier pour financer donc les promoteurs, les opérations de réhabilitation et également pouvoir adresser un petit peu mieux notre clientèle d'investisseurs professionnels qui souhaitent diversifier forcément leur actif et qui ne souhaitent pas aller sur la plateforme deal par deal.
Dans ce secteur-là, on se pose, on va dire peut-être enfin des questions. Il y en a, si vous entendez du côté de Nexity, il vous dit il n'y a pas de cycle sur le logement en France parce qu'il y a une telle demande. Et puis il y a d'autres qui commencent à s'inquiéter parce qu'on est dans des années électorales et que voilà, on sait que ça freine. Votre regard sur ce marché-là et sur les actifs que vous allez choisir?
Alors, ça fait à peu près 12 mois, 18 mois qu'on fait beaucoup de moins de promotion résidentielle parce qu'effectivement, on sait que la promotion résidentielle est cyclique, un peu moins quand on s'appelle Nexity. Par contre, le marché est structurellement cyclique. Là, d'ici 2020, on voit les permis ont ralenti. Je crois que c'est moins 14% depuis le début de l'année. Les mises en chantier forcément suivent. Donc, on va partir, je pense, sur un cycle de 18 mois qui est un peu moins intense en termes de développement. Par contre, ça ne veut pas dire que l'immobilier en tant que tel ralentit. On s'intéresse à beaucoup d'autres marchés, l'immobilier géré, la réhabilitation d'actifs en voie d'obsolescence. Il y a une statistique qui reste importante, c'est 40% des immeubles parisiens de bureaux ont été construits il y a plus de 80 ans. Voilà. Donc en termes de consommation énergétique, en termes de valeur ajoutée, il y a encore pas mal de choses à faire.
On avait vu aussi, alors plutôt fin d'année dernière, mais on avait vu des investisseurs américains effectivement arbitrer, notamment sur l'immobilier d'entreprise. Pour dire les choses simplement, ils sortaient d'Europe, ils allaient chercher des rendements un peu meilleurs aux États-Unis. Ça aussi, c'est des phénomènes que vous devez regarder de près.
Aujourd'hui, on regarde dans l'industrie immobilière au sens large, en tout cas les acteurs financiers. Effectivement, aujourd'hui, les foncières cotées distribuent de beaux dividendes. Il y a pas mal de choses. Des acteurs du retail se font un petit peu challenger aussi. Les SCPI voient leur taux diminuer pour certaines. Donc, il faut aller chercher aussi. Il faut sortir du quartier central des affaires parisien. Donc, le marché bouge. Mais je pense qu'il y a encore pas mal d'opportunités, notamment quand on s'intéresse à toutes les opérations à forte valeur ajoutée.
Vous parlez de réhabilitation, c'est vrai que c'est un marché qu'on ne connaît pas forcément, mais on sent que c'est en train un peu de bouger en France, qu'il y a plus de projets de ce type-là.
Exactement. Donc, comment réadapter? Il y a deux tendances fortes. C'est à la fois les contraintes énergétiques. Il faut s'adapter. La RT 2020 va permettre aussi, la nouvelle réglementation thermique va permettre de créer des bâtiments passifs. Il y a tout ce qui est aussi nouveaux usages. C'est comment des bureaux qui ont été créés ou construits il y a plusieurs dizaines d'années, aujourd'hui s'adaptent aux usages des entreprises. Donc, on a parlé du co-living, du coworking, on a parlé de beaucoup de choses. Aujourd'hui, il faut adapter l'immobilier à ces nouveaux usages. Donc, ça, c'est encore un boulevard pour les investisseurs.
On a cette quête de rendement, clairement. Là, on nous dit que les taux vont rester bas, peut-être encore plus longtemps que prévu, alors qu'on était parti peut-être sur une remontée aux États-Unis. Maintenant, on nous dit, ah bah non, il va peut-être y avoir. Ça veut dire qu'effectivement, il faut parler de ce TRI, il faut arriver à attirer les investisseurs sur un taux de rendement, ou c'est aussi la diversification d'actifs, comme vous évoquiez tout à l'heure?
On a une double approche. C'est à la fois aller chercher du rendement sur nos opérations. On investit principalement en fonds propres, donc en equity, en mezzanine, donc avec des taux plutôt structurellement élevés, et sur des opérations à forte valeur ajoutée. L'impact des taux, il est très fort quand on investit une stratégie core à Paris avec des bonnes signatures sur des immeubles de rapport. Dès lors qu'on va chercher de la valeur ajoutée à travers les travaux, à travers une vacance un peu importante, là effectivement, on est un petit peu moins impacté par une remontée des taux, bien qu'elle impactera la sortie à un moment.
Donc, il y a l'immobilier qui était le cœur, hein, finalement, un peu historique de l'entreprise, mais du private equity, de la dette privée, il y a l'idée aussi d'avoir une proposition plus
Oui,
large.
Anexago à l'origine accompagne les chefs d'entreprise en croissance. Donc ça, c'est le propre du private equity. Et on l'a adapté en particulier aux besoins des opérateurs immobiliers. Mais effectivement, il nous arrive d'intervenir maintenant en dette privée, en mezzanine, toujours avec une teinte immobilière, en tout cas pour ce premier fonds, le FCPR. Mais demain, on ne s'interdit pas d'accéder à d'autres classes d'actifs.
Là, c'est à peu près, vous avez dit, voilà, pour le premier fonds, 200 millions d'euros, c'est ce que vous aimeriez
Non, l'objectif, c'est plutôt,
plus.
plutôt 200
Au
millions pour la
total.
plateforme, enfin,
D'accord.
pardon, pour la
Oui.
suggestion au global. Le premier fonds, il sera autour de 30 millions d'euros pour investir vite et améliorer le TRI.
On a vu sur certains acteurs, hein, sur des prêts, alors c'est des prêts aux PME, mais on voit des fois que ça se passe très très vite sur les plateformes. On voit même voilà, en vidéo les investisseurs qui effectivement disent oui
Oui.
immédiatement. Vous constatez aussi qu'il y a cet appétit-là
Il y a
aujourd'hui
un
ou...
appétit, je ne sais pas s'il est toujours. Enfin, il y a un appétit, mais je pense que c'est important aussi que les investisseurs puissent prendre leur décision et avoir le temps de réfléchir. On n'est pas dans cette quête de vouloir absolument aller très vite, puisque un opérateur n'est pas une semaine près. Donc les choses vont vite, mais on aime que les investisseurs aient aussi le temps de consulter la documentation et pas avoir de mauvaises surprises a posteriori.
Merci beaucoup Joachim Dupont
Merci à
d'avoir fait le
vous.
point avec nous.